Le cinéaste canadien Kim Nguyen s'est intéressé au sort des enfants soldats dans son 4e long métrage intitulé Rebelles, qui a été tourné en République démocratique du Congo. Nous le joignons à New York où son film est en compétition. En fait, la compétition, c'est la 11e édition du Festival du film de Tribeca. Ça se déroule jusqu'au 29 avril. Alors, nous allons le retrouver dans un restaurant d'un charmant quartier à New York. Monsieur Nguyen, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Nguyen, dites-moi, qu'est-ce que vous connaissiez de la réalité des enfants soldats avant de faire ce film?
En fait, je la connaissais très peu et c'est après avoir lu sur l'histoire d'un enfant birman de 9 ans qui était un jour éveillé et qui a dit qu'il était la réincarnation de Dieu et qui par la suite a guidé une armée d'une centaine d'enfants soldats et d'adultes, qu'il y a eu une espèce de flamme qui s'est allumée et qui m'a dit, qui m'a donné envie de parler de ce sujet qui est un mélange de réalité tragique mais à la fois qui a une force évocatrice qui est digne de la tragédie grecque, je dirais.
Alors, vous l'avez tourné en République démocratique du Congo. En fait, même si l'histoire, on ne sait pas où elle a lieu, le tournage, lui, a eu lieu en République démocratique du Congo. Lorsque vous vous êtes allé dans ce pays, est-ce qu'on vous a pris au sérieux?
Ben, en fait, il y avait quelque chose d'étrange. En fait, la plupart des gens qui étaient à Montréal et nos collègues de production française actuellement, ils pensaient plutôt qu'on était fous. tout d'abord. Et effectivement, un des grands défis qui s'est manifesté dès le départ, c'est de trouver une compagnie d'assurance qui allait accepter de nous couvrir pour la période où on allait faire le tournage au Congo. Par contre, une fois qu'on est arrivé au Congo, c'était c'était plutôt une espèce d'étrangeté du fait qu'on arrive là, que moi, je suis moitié canadien, moitié vietnamien. Et que je décide de raconter une histoire sous le regard d'une jeune enfant congolaise. Il y avait quelque chose d'incompréhensible, en fait, je pense. Il y avait quelque chose d'assez surpris de la part de nos collègues congolais.
Oui. En fait, si je comprends bien, vous n'avez vécu que des défis déjà pour trouver votre comédienne principale. Cette jeune fille, ça a été tout un défi aussi. Parlez-nous d'elle.
Bon, alors Rachel, c'est une enfant de la rue qui a été abandonnée par ses parents assez jeune, quand il avait 6 ou 7 ans. Et elle s'est promenée à la fois chez du logis de sa grand-mère dans la rue pendant plusieurs années. Quand on l'a trouvée, elle venait de participer à un documentaire dont un des chapitres traitait des enfants de la rue. Et d'une part, les enfants de la rue se sont révélés des acteurs extraordinaires. De par leur capacité d'habiter les silences, c'est-à-dire, c'est difficile à savoir pourquoi, mais je pense qu'un des éléments, c'est le fait qu'ils sont toujours en alerte quand ils sont dans la rue, ils doivent toujours surveiller, regarder au-dessus de leur épaule. Je pense que ça, ils ont, en héritant de ça, ça leur a donné une capacité de jeu extraordinaire. Et Rachel était la meilleure de tous ces enfants soldats. Il y a à peu près 30 000 enfants de la rue à Kinshasa. Et elle est littéralement une parmi des millions. Elle a un charisme extraordinaire. C'est pas juste qu'elle est authentique, mais elle a vraiment un charisme qui meuble tout l'écran, je trouve.
Alors, racontez-nous un peu la genèse de ce film. Qu'est-ce que ça raconte? Bon, oui, on suit cette jeune fille qui devient une enfant soldat.
Ben, en fait, d'après moi, l'histoire, c'est une histoire d'amour en temps de guerre, d'abord et avant tout. Et à travers et cette histoire-là est racontée de façon subjective, pas objective, complètement subjective, sous l'œil de cet enfant soldat qui passe de l'ombre à la lumière, en fait, et qui habite dans un village et qui, oui, se fait enlever par des rebelles, mais qui aussi tombe en amour et essaie et lutte avec résilience pour passer vers la lumière, je dirais.
Mais attendez, avant de voir l'histoire d'amour, là, on voit des scènes assez difficiles. Même, je le disais en introduction d'émission, ça dépasse la réalité. On sait que c'est la réalité, contrairement à un documentaire. Là, on sait que c'est un film de fiction, mais c'est plus vrai que la réalité.
Ah ben, c'est intéressant. C'est la première fois qu'on me dit ça, en fait. C'est très intéressant. Mais peut-être que je peux pas vraiment... aux autres de se faire l'idée par rapport au film. Mais
oui.
Effectivement, comme le film ne se veut pas objectif, il se veut complètement subjectif, peut-être qu'on se sent plus proche de la réalité émotive du personnage, parce que j'ai senti que à travers les films sur les enfants soldats et sur la vie en Afrique subsaharienne qui avait été fait dans le passé, on n'avait pas assez peut-être placé dans la perspective où on permet de comprendre la vie à l'intérieur des réalités qu'on nous présente. Et donc, ce film-là est complètement subjectif. Et la réalité qu'on voit est tordue par les croyances, la consommation de drogue, les superstitions. Et peut-être qu'en ce sens-là, on atteint une forme de réalisme émotif plus qu'un réalisme objectif, en guillemets.
Oui. Tourner sur des images absolument magnifiques, c'est ce qui vous a plu également, le fait de tourner en République démocratique du Congo?
Oui, je dirais, c'est dur de dire exactement que c'est de la beauté, mais c'est une poésie du contraste où on a la modernité qui est complètement fracassée par le désir de survie, par les traditions ancestrales. Et donc, on a tous nos codes modernes d'Amérique du Nord qui sont recyclés d'une façon qu'on n'aurait jamais pu croire. Comme par exemple, on était dans un village avec des maisons sur pilotis, et les panneaux de publicité des grandes compagnies d'Internet, de téléphonie cellulaire, servent littéralement à faire des murs. Donc, on a des maisons sur pilotis avec des poteaux de bambou, mais dont les murs sont des panneaux publicitaires pour une vie meilleure, Vodacom, etc., etc. Il y a quelque chose de vraiment post-moderne, oui, dans ça, qui était vraiment intéressant.
Parlez-moi d'un second rôle, celui de l'albinos dans le film. Bon, parce qu'on parle de la réalité des enfants soldats, mais il y a une autre réalité également en Afrique, c'est celle des albinos.
Effectivement,
est-ce que
oui,
c'était vraiment choisi, ce rôle d'albinos?
Non, c'est étrange parce que j'ai essayé que le film ne pose pas de jugement sur rien et qu'il présente la réalité telle qu'elle est sans la tordre au profit de propos moral quel qu'il soit. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Mais donc, dans ce film, à un certain point, on passe dans un village albinos. Ces villages-là sont des villages construits pour protéger les peuples albinos qui sont persécutés en Afrique, notamment en Tanzanie et au Congo. Mais le rôle, il n'avait jamais été prévu que le personnage, le deuxième protagoniste du film, qu'on appelle magicien dans le film, soit albinos. Mais il s'avérait qu'à Kinshasa, le meilleur acteur, le meilleur comédien qu'on a trouvé pour le rôle était albinos. Mmh. Et on l'appelle Eminem, en fait, dans la rue à Kinshasa. Son vrai nom, c'est Serge, mais il s'appelle Eminem, oui, parce qu'avec son look albinos, c'est quelqu'un de très charmant. Il est très connu dans la rue. Et on s'est demandé, bon, est-ce que ça a du sens que le personnage soit albinos? Et on s'est dit, mais pourquoi pas? Dans la mesure où il est vrai, il est vrai.
Je voulais vous parler, en fait, de votre présence au sommet de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, cet automne. Vous allez présenter le film là-bas.
Ben, en fait, j'ai pas eu la confirmation. On aimerait le faire. Oh. Ça serait notre objectif pour le présenter, pour de revenir au Congo dans ce contexte-là. Ça serait assez extraordinaire, oui, de le faire. Et en plus, on aurait la chance de présenter des politiciens qui seraient présents pour peut-être leur présenter une autre perspective, pas leur donner de jugement, leur dire ce qu'il faut faire, mais avoir une autre vision de l'Afrique qui ont souvent pas le temps d'apprivoiser, je dirais. Mais j'ai aucune idée de où on est rendu dans ces démarches, en fait. Mais on a fait la demande de présenter.
En tout cas, pour l'instant, vous êtes à New York à cette compétition de la 11e édition du Festival du film de Tribeca. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez bon espoir?
Pour
ce festival actuel à New York? Pour gagner le premier prix?
En fait, une fois qu'on est en compétition dans n'importe quel festival, pour moi, après ça, il n'y a plus vraiment d'attente. Tout le reste, c'est des cadeaux, vraiment, je le crois. Et il y a une partie qualité des films, et il y a une partie conjoncture, membres du jury, qu'on n'a plus aucun contrôle. Pour moi, d'être ici en compétition officielle, apparemment, il y a eu 5900 films qui ont posé candidature, et on fait partie des 12 en compétition officielle. Pour moi, le cadeau est déjà là. Si on gagne un prix, après ça, c'est du gâteau. Et ceci étant dit, Rachel... Elle est tellement puissante qu'elle a de grandes chances de gagner le prix d'interprétation encore une fois, je crois.
Eh bien, souhaitez-lui bonne chance de notre part et bonne chance à vous également. Merci infiniment, Kim Nguyen, pour ce film Rebelle. Donc, c'est à voir. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir à votre émission.
Au revoir.